Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Seigneur notre Dieu, nous voici devant ta face. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle-nous, afin que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Amen. Je vais vous inviter à la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Genèse, le chapitre 21, du 8e verset jusqu'au 21e. Genèse, chapitre 21, le verset 8 jusqu'à 21. On devrait lire aussi Genèse, chapitre 16, mais aussi le chapitre 12, mais peut-être nous serons en train de faire notre référence dans la prédication. La lecture, nous la faisons en Genèse, chapitre 21, le verset 8 jusqu'à 21. Je conduis la lecture, la parole de Dieu dit ce qui suit. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Elle vit un puits d'eau, et elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devait tireur d'arc. Il habita dans le désert des parents et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte, parole du Seigneur. Nous pouvons quand même lire aussi le verset 13 du chapitre 16. Le verset 13 du chapitre 16 dit ce qui suit. Elle appela Atta El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour, nous avons voulu intituler notre thème Dieu dans nos détresses. Dieu dans nos détresses et nous sommes appelés à lui être fidèles malgré nos détresses. Nous venons de lire la parole de Dieu en Genèse. C'est l'histoire de Agar. Et je dis qu'on devait lire le chapitre 12, 10e verset au 20e. On devait lire aussi le chapitre 16, du 1er verset au 16e. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons Agar. Nous avons entendu parler d'elle. Et comment elle est arrivée dans la maison d'Abraham. Après que Dieu ait appelé Abraham pour le servir d'Our jusqu'à Canaan, il y a eu une grande famine. La grande famine amena Abraham et Sarah, son épouse, d'aller en Égypte. Arrivé en Égypte, Sarah était une femme très belle, de figure, et personne ne pouvait la résister. Et Abraham a constaté cela et a dit, certainement quand nous allons entrer dans la maison d'Égypte, le Pharaon va me tuer pour s'emparer de ma femme. Il a imaginé un scénario et il a demandé à son épouse de se présenter comme sa sœur. Et effectivement, c'est arrivé. L'épouse s'est présentée comme la sœur. La Bible dit, si vous lisez le chapitre 12, que Pharaon avait donné beaucoup de présents, beaucoup de cadeaux à Abraham, et peu comme une dot qu'il verse. Et il a pris cette femme comme concubine. Sarah a été la concubine de Pharaon. Et parmi les cadeaux qu'on a donnés à Abraham, il y avait aussi des serviteurs et des servantes qu'on pouvait appeler encore bibliquement des esclaves. Agar était parmi ces serviteurs et servantes qu'on avait donnés au désormais célibataire Abraham, parce qu'il n'avait plus de femme. La Bible dit que l'Éternel se fâcha et il a donné de plaies, une punition à Pharaon. Et c'est après qu'il a compris que Sarah était la femme d'Abraham. Sarah a été chassée avec Abraham et comme les serviteurs et servantes, quand on vous les donne, ce sont vos esclaves. Ils deviennent vos propriétés. Ils ont été aussi chassés avec eux. Et ils sont partis. Abraham a fait de sa propre femme, Sarah, un instrument pour qu'il soit bien traité en Égypte. Cette attitude a eu des conséquences dans la vie d'Abraham. Elle a rendu sa femme concubine d'un Égyptien, mais aussi il a fait entrer dans sa maison une étrangère qui s'appelle Agar par ordre de Pharaon. Et plus tard, cette étrangère est devenue aussi sa concubine. Deuxième conséquence, à cause de ces mensonges que Abraham a proféré devant Pharaon, l'Égyptienne qui est Agar a été aussi chassée de sa propre patrie. Elle a été obligée de suivre ses maîtres. Ça veut dire, elle a laissé ses parents, elle a laissé sa terre ancestrale, elle est partie dans une patrie où personne ne peut lui venir en aide. Personne ne pouvait lui venir en aide, sauf c'est Dieu qui peut être à mesure de défendre ceux qui sont sans défense. La Bible nous dit souvent qu'Abraham, c'est notre père de la foi. Avec ça, est-ce qu'il peut mériter d'être appelé père de la foi? La vie familiale et sociale d'Abraham ne nous inspire pas positivement. Mais Abraham et père de notre foi, parce que le Seigneur l'avait appelé d'aller dans une terre inconnue. Il ne connaissait même pas ce Dieu-là, il a accepté. Aussi, Dieu lui a dit, tu as trouvé ton fils, je te demande de me l'offrir en sacrifice. Il a accepté. Il accepte des choses qui sont impossibles naturellement. Alors, il devient le père de la foi. Mais d'une manière familiale, il n'est pas le modèle à imiter. Il y a des hommes qui font de leurs femmes des esclaves. Il y a aussi d'autres personnes qui sont encore aujourd'hui comme Agar, en position de faiblesse. Personne ne peut leur venir en aide, sauf Dieu qui peut être l'intermédiaire lorsque nous sommes sans aide. Si vous lisez le chapitre 16, c'est Sarah elle-même qui avait demandé à son mari de prendre Agar comme épouse pour qu'elle ait d'enfants, parce qu'elle n'avait pas encore la faim. Quand elle a été enceinte, au chapitre 16, elle a commencé à mépriser sa maîtresse, qui est Sarah. Donc c'est possible que nous soyons aussi responsables des problèmes qui nous arrivent dans la vie. Le fait que nous oublions facilement de là où nous sommes venus, ça peut nous amener des problèmes dans la vie. Il y a des gens qui ont des attitudes, on les appelle des « m'as-tu vu ?» Si vous avez votre dictionnaire, vous pouvez voir. Dans le dictionnaire, il y a les mots « m'as-tu vu ?» « M'as-tu vu ?» ça veut dire quoi ? C'est un nom qu'on donne à un acteur médiocre. C'est un nom qu'on donne aussi à quelqu'un qui ne sait pas cacher sa joie ou sa position. Quand il passe, il veut que tout le monde le voie. Il y a des gens comme ça aussi aujourd'hui. Et quand on va commencer à vous envoyer des messages de menace, vous allez dire, on nous poursuit dans cette ville. Alors que tu as été, m'as-tu vu? Il y a des gens qui font même des compétitions de habits. Des femmes qui font des compétitions des habits. Parce que telle s'est habillée comme ça, moi je veux m'habiller comme ça. Et ça arrive même à l'église. Même dans les quartiers, m'as-tu vu? Quand il y aura un problème, ça. Mais malgré ça, l'Éternel est miséricordieux, il est compatissant. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons parler de deux choses. Les deux choses, l'enseignement que Agar, la vie d'Agar, veut nous dire ce jour. La première chose, c'est la justice de Dieu face à ceux-là qui sont délaissés. La deuxième chose, c'est l'héritage que Dieu donne à ceux qui sont délaissés. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 13 du chapitre 16 que nous avons lu, cette femme, Agar, l'esclave qui a été chassée de sa maison, une étrangère, elle a vu Dieu face à face. Parce que la Bible dit, il y a eu un ange qui est venu vers elle. Et bien-aimée dans le Seigneur, cette femme, lorsqu'elle a vu cet ange, elle a directement vu que c'est Dieu lui-même. Et il a dit, tu es El Roi. Tu es El Roi. Normalement, cette femme, c'est la première femme ou la première personne qui donne à Dieu les noms. En Exode, c'est Dieu lui-même qui se donne un nom de Yahweh. Mais ici, c'est elle qui est la première femme à donner à Dieu un nom par rapport à ce qu'elle vient de voir. El Roi. El Roi signifie Dieu voit. Dieu voit. Cette femme errante dans le désert, seule, abandonnée par tous, elle était dans un total désespoir. Et maintenant, elle constate que Dieu la voit. Elle exprime son étonnement. Elle s'étonne. Dieu me voit.
Dieu me voit. C'est moi, Elroy, ravoie au nom que Abraham, au chapitre 22, avait donné au mont Moria, là où il est allé faire le sacrifice d'Isaac. Le Seigneur lui a montré une brebis qui devait sacrifier à la place d'Isaac. Et Abraham a nommé cette montagne Jéhovah Jireh, Yahweh Jireh. Yahweh Jireh signifie, le mot Jireh signifie voir, signifie pourvoir aussi. Ça veut dire Agar, qui était la concubine d'Abraham, et Abraham disent un même mot qui veut dire Dieu me voit. Ça veut dire, lorsque la personne est dans le besoin, c'est Dieu qui les voit, il pourvoit aussi à ses besoins. Abraham a levé les yeux. Il a vu le bélier qu'il devrait offrir à la place de son fils. Ça veut dire que le Dieu qui nous voit, c'est aussi le Dieu qui nous fait voir. Quand Dieu te voit, il te fait aussi voir. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire, comme il nous voit, nous n'avons pas peur parce qu'il va aussi nous faire voir les solutions à nos multiples besoins. Cette histoire, cette première partie nous enseigne quoi? Cette première partie nous enseigne que ce n'est pas parce que Agar est une femme, ce n'est pas parce que Agar est une Égyptienne étrangère, ce n'est pas parce que Agar c'est une esclave que Dieu va la voir comme esclave. Aux yeux de Dieu, Agar, c'est un humain comme tant d'autres. C'est un humain comme tant d'autres. À cause de l'injustice qu'elle a subie, Dieu est descendu à sa rescousse parce que Dieu voit tout. Combien de fois nous avons empêché les gens à cause de leur statut, tout simplement parce que c'est une femme et vous l'empêchez de faire quelque chose parce que c'est une femme. Qui a fait une demande d'être né homme? Qui a fait une demande d'être né femme ici? Personne. Lorsque nous, les hommes, nous mettons des distinctions, le Seigneur dit, vous êtes tous mes créatures. Je voudrais dire que ceci puisse fortifier quelqu'un ce matin ici. Ce n'est pas parce que les humains peuvent donner à quelqu'un statut de mépris qu'il est traité ainsi aux yeux de Dieu. Dieu, Elroy, c'est celui qui nous voit tel que nous sommes, tel que nous sommes réellement, et à ses yeux, et il ne nous voit pas comme les humains nous voient. Là où les humains nous méprisent, là où les humains ne nous approchent pas, le Seigneur nous approche. Le Seigneur, c'est celui qui nous donne la vraie valeur de l'humain. Celui qui nous a créés, et c'est celui qui connaît ta vraie valeur à ses yeux. C'est pourquoi quand tu es maltraité, il faut attendre que le Seigneur va descendre parce qu'il te voit dans ta détresse. La deuxième chose, c'est l'héritage que Dieu a donné à Agar pour élever son fils. Cet héritage, c'est une vision intelligente. Bien-aimé dans le Seigneur, au verset 10 du chapitre 21 que nous avons lu, Sarah a dit un mot. Il a dit, ce fils de l'esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Il a été chassé avec sa mère pendant son errance dans le désert. Je voudrais d'abord mettre une petite précision. Agar a été chassée deux fois. Au chapitre 16, elle a été chassée parce qu'elle a commencé à mépriser la femme d'Abraham, Sarah. Mais quand elle est revenue, quand elle est arrivée dans le désert, l'ange de l'Éternel l'a demandé de revenir et d'aller s'humilier. Et elle est revenue. Elle a mis au monde, la femme a grandi. Le jour où Isaac est né, il s'est passé 3 ans et la femme était sevrée. La Bible dit qu'il y a eu une fête. qui a été organisé. Le problème, c'était quoi? Sarah a vu Ismaël, le fils d'Agar, en train de rire. C'était ça le problème. Rire. Donc, ça veut dire que même rire, c'est un problème. Tu peux rire et les gens ne seront pas contents de te rire. C'est possible aussi. Et là, c'est à partir de ce moment-là qu'elle a été chassée définitivement. Mais la parole de Dieu est très bonne et belle parce que elle nous enseigne comment Dieu s'occupe de nous lorsque nous sommes rejetés par la société. Lorsque même les gens avec qui nous avons vécu, pour qui nous avons travaillé, lorsqu'ils nous chassent, lorsqu'ils ne nous considèrent plus, la parole de Dieu nous dit, ne vous en faites pas, le Seigneur vient à votre rescousse. Dans sa fuite, à deux reprises, elle a trouvé le puits. Le puits pour l'enfant, où on peut trouver de l'eau à boire. La femme qui était en train de mourir de soif, elle a trouvé le puits. Le Seigneur a ouvert ses yeux pour voir le puits. Le Seigneur a ouvert ses yeux. Le puits dans la Bible, c'est un grand symbole. Le puits symbolise la connaissance profonde de Dieu. Le puits symbolise la connaissance profonde de Dieu. Et l'eau qui est là, c'est la parole de Dieu qui est là. Parce que dans la Bible, l'eau symbolise aussi la parole de Dieu. Vous voyez, Moïse, quand il fouillait de l'Égypte, il a eu la vie sauve. Il a trouvé les enfants de Jephté, les filles, devant le puits. Et c'est à partir de là qu'il a eu même la femme. Aussi Jésus, avec la femme samaritaine, c'était aussi devant le puits. C'est un symbole de la connaissance de la parole de Dieu. Connaître ce que les autres ne connaissent pas. Cette vision intelligente que Agar a eue. Ça veut dire, dans ces récits ici que nous venons de lire, ça nous montre que Agar a compris que se rencontrer avec le Seigneur, c'est la plus grande chose qu'un humain peut faire dans sa vie afin que son intelligence soit éclairée. Et la Bible dit à Proverbes 7, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Agar, avec son fils qui a été privé de l'héritage, Dieu ne lui a jamais dit que je vais te priver des biens matériels. Il lui a donné les biens matériels parce que quand il parlait à Abraham, il a dit, ne vous en faites pas. Cet enfant, c'est ton enfant. Je vais aussi le bénir et ça sera une grande nation. Le Seigneur l'a béni et est devenu une grande nation. Mais pour y arriver, il a fallu que sa mère ait une vision intelligente de trouver Dieu dans sa toute profondeur. Dieu ne lui a jamais dit qu'il va défendre son fils pour qu'il puisse avoir des matériels chez Abraham. Mais cette vision-là va permettre à Agar d'avoir une intelligence, de voir ce que les autres n'ont pas encore vu. Dans ce désert-là, les gens passaient par là et ils mouraient. Mais Agar a vu parce qu'elle a rencontré l'Éternel face à face. Ce deuxième point ici veut nous enseigner quoi? Dieu ne nous voit pas seulement dans nos détresses, je l'ai déjà dit, mais il nous fait aussi voir des solutions à nos détresses. Cette vision que Agar a eue, c'est le plus beau cadeau que Dieu donne à seuls et ceux qui sont privés de l'héritage matériel. Et le paradoxe, quand nous marchons avec le Seigneur, c'est que Dieu est capable de priver de l'intelligence à ceux et celles qui ont bénéficié de l'héritage matériel au détriment des autres. Mais il peut aussi donner de l'intelligence à ceux-là qui n'ont pas reçu de biens matériels pour qu'ils aient leur propre bien matériel par leur intelligence qu'ils vont utiliser avec Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est moins sage. Il est souvent moins sage d'être en conflit avec ses frères et sœurs pour la question d'héritage. Dans sa justice, Dieu sait toujours établir l'équilibre entre les exclus d'héritage et ceux qui croyaient être le véritable légitime. Aux uns, il peut donner l'héritage matériel sans intelligence. Et aux autres, il donne l'intelligence pour qu'ils puissent avoir le matériel par leur propre intelligence. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans n'importe quelle situation tu te trouves, il faut regarder Dieu. C'est Dieu, lui, qui te voit dans ta détresse. C'est Dieu, lui, qui sait dans quelle situation tu te trouves. Lui qui sait se montrer à toi, sait que Dieu te voit et il va te faire voir pour que tu trouves solution à ton problème. Que le Seigneur nous bénisse.